Comment éviter que l'histoire bégaye encore? Comment empêcher à d'autres candidats populistes de prendre les commandes d'un pays? La question se pose au lendemain de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Question que nous allons creuser tout de suite dans le plus de Matin Première. Bonjour Raphaël Liogier.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et philosophe spécialiste du populisme. Pourquoi est-ce que Donald Trump a gagné?
Je crois qu'en définitive, Donald Trump a gagné parce que les candidats qui sont supposés des candidats du système, ceux qu'on représente comme étant des candidats du système, que ce soit d'ailleurs du côté des démocrates ou du côté des républicains. On a bien vu qu'à la base, Donald Trump a pris le pouvoir à l'intérieur du parti républicain contre des candidats qui sont supposés être des candidats du système. Eh bien, n'ont rien à proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a finalement des programmes politiques qui sont relativement vides, qui promettent par exemple tous le plein emploi, qu'on soit à droite ou qu'on soit à gauche, et qui ne peuvent pas le tenir, qui ne peuvent pas tenir ce qu'ils promettent, qu'ils soient plutôt sociaux-démocrates d'un côté ou plutôt libéraux de l'autre. En fait, ils sont à peu près pareils, ils sont tous dans une sorte de néo-libéralisme, de dérégulation soft, plus ou moins sociale.
Ceci mais en dit, ne tenant le programme pas de Donald Trump était vide aussi.
Et du coup, il reste... Oui ?
Ceci dit, le programme de Donald Trump était vide aussi.
C'est ce que je veux dire, c'est que le vide du programme de Donald Trump, et c'est ce qui fait le propre des populismes, c'est un programme réactif, c'est un programme qui est anti tout ce qui est anti-étranger, anti-immigration, c'est un programme qui s'exprime en négatif dans cette espèce d'obsession de l'encerclementaire. On peut rien faire, on propose rien en positif. Les candidats système proposent rien en positif. Et donc, la vision angoissée de la population, Donald Trump répond à cette vision angoissée de la population. Mmh. C'est pour ça que dans mon livre, Sans emploi, justement, ce que j'essaye de montrer, c'est que, il faut sortir de la logique de la création d'emplois dans les sociétés post-industrielles comme les nôtres, parce que de toute façon, on ne peut pas tenir. C'est-à-dire, on fabrique de plus en plus de richesses aujourd'hui. Mais en même temps, cette richesse, elle est de moins en moins distribuée parce qu'il y a de moins en moins d'emplois. Donc, il y a une concentration du capital et il y a de plus en plus de gens qui sont laissés sur le côté. C'est-à-dire qu'en gros, le capitalisme, le système capitaliste ne fonctionne plus. La social-démocratie, qui est une gestion du capitalisme, ne fonctionne plus. Donc, il faut transformer complètement le système. C'est ce que je propose, à la fois dans notre rapport au travail, avec un revenu d'existence, par exemple, de haut niveau, et à la fois dans notre rapport à la fiscalité. L'impôt sur le revenu ne sert plus à grand-chose puisque le revenu est essentiellement lié au travail et donc il faudrait un impôt sur le capital lui-même pour empêcher les concentrations et financer le revenu d'existence, c'est-à-dire pour transformer complètement notre rapport à la société. Et à ce moment-là, on n'aurait plus ce décrochage de toutes ces parties de la population qui se sentent même atteints dans leur identité, avec cette dichotomie entre d'un côté le monde des chômeurs et d'un autre côté le monde des gens qui travaillent, qui seraient privilégiés.
Et donc ce que vous proposez concrètement, c'est notamment la mise en place de l'allocation universelle, c'est ça ?
Par exemple, déjà à la base la mise en place de l'allocation universelle de haut niveau qui permet à tout le monde de participer. Ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas actifs, au contraire, ça veut dire qu'on sera dans une logique de pleine activité où le contrat de travail qui était là pour protéger les employés face au trop grand pouvoir des employeurs, bien là, on n'aurait plus besoin vraiment de contrat de travail si on a un haut niveau de revenus d'existence. Mais parce que de nouveaux rapports s'établiraient entre les patrons et les employés, et en même temps, les individus pourraient recomposer leur activité à un autre niveau sans être bloqués par cette nécessité d'être absolument dans un contrat de travail. Parce qu'il y aurait ce haut niveau de revenu d'existence. Ça changerait tout dans la société. Ça rendrait beaucoup plus désirable d'exister, de participer à cette société, d'être actif avec tous les revenus complémentaires possibles qui pourraient ensuite exister pour avoir plusieurs emplois. Ça serait vraiment cette logique qui a été décrite par certains économistes de pleine activité. Mais ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas en même temps une transformation aussi fiscale, je vous dis, puisque une transformation même de notre rapport au social, puisqu'aujourd'hui tout est fondé sur le travail, même le social aujourd'hui est lié au travail. Mais comme il y a de moins en moins de travail, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, de moins en moins de contributeurs, mais de plus en plus de demandeurs, le système s'effondre. Le système est tout le temps en faillite, si vous voulez. On le voit en Belgique, on le voit en France, on le voit à peu près partout. Donc il faut sortir de cette logique négative de la faillite, alors que, sur le fond, on produit quand même de plus en plus grâce aux machines. Il y a une productivité qui s'accroît sans nécessité du travail. En réalité, c'est un bien. Et comme on ne sait pas le gérer, c'est une catastrophe. Donc il faut tout changer.
Merci.
C'est ça que je propose.
Merci Raphaël Liogier d'avoir échangé avec nous ce matin, d'avoir partagé avec nous vos idées, votre réponse face au populisme ambiant. Vous venez donc de sortir un livre consacré à ces solutions pour un monde sans emploi. Merci Raphaël Liogier d'avoir été en direct avec nous ce matin.